VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, bienvenue. L'aviation kenyane a bombardé hier et aujourd'hui deux camps du groupe militant somalien Al-Shabaab dans le sud de la Somalie. Pas de bilan de raid pour le moment, mais les Shabaab, rappelons-le, ont revendiqué le massacre à l'université de Garissa dans le nord-est du Kenya qui a fait, vous le savez, 148 morts la semaine dernière. Les Kenyans en sont au deuxième des trois jours de deuil national proclamé à la mémoire des victimes. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud exhorte le Kenya à faire front commun contre Al-Shabaab, ce qui est à son avis un ennemi à l'échelle régionale. Chérubin Dorsil.
Le fait que Shabaab opère de façon croissante sur le territoire kenyan n'est pas une surprise, au moins pour trois raisons. La première, c'est que Shabaab en fait a redoublé d'efforts dans la province du Jubaland, donc qui est frontalière avec le Kenya, et évidemment a une capacité de frappe de l'autre côté de la frontière qui est beaucoup plus forte. La deuxième, c'est que Shabaab veut montrer qu'il existe, hein, que l'organisation n'est pas aussi affaiblie qu'on le dit et on le répète, malgré le fait que des frappes aient tué des responsables importants. Dans le même temps, la présence de militaires kenyans à Kismayo est un problème pour Shabaab. Puis le troisième aspect, c'est quand même que Shabaab, depuis quelques années, essaye de développer l'idée qu'il essaye de créer un mouvement djihadiste au Kenya.
Est-ce que, comme en Afghanistan, la solution militaire en Somalie n'a pas montré ses limites et on oublie souvent le volet réconciliation ?
Un volet militaire, dans les circonstances actuelles, il doit évidemment exister. Ce qui me semble tout à fait, par contre, frappant, c'est que à plusieurs moments, il y a eu des possibilités. Il y a eu des moments où on aurait peut-être dû jouer cette carte de engagement, comme on dit en bon anglais. Et on n'a pas voulu la jouer parce qu'on était tellement sûr de gagner.
Roland Marchal, il est un expert du Centre national de la recherche scientifique à Paris. Il expliquait pourquoi les Shabaab continuent leurs attaques en Somalie. Il a été interrogé par Nicolas Pinault. Incertitude concernant le sommet africain contre Boko Haram mercredi à Malabo. Après avoir annoncé dimanche la tenue de ce sommet, la CEDEAO est ensuite revenue sur son communiqué présentant ses excuses. Pour l'heure, aucune information ne permet de déterminer si le sommet était annulé ou simplement reporté. Deux journalistes nigériens d'Al Jazeera ont été libérés au Nigeria. La chaîne Qatari annonce la libération de nos deux confrères qui avaient été arrêtés le 24 mars dans le nord-est du pays par l'armée qui mène des opérations contre Boko Haram. Ahmed Idriss et Mustapha Ali avaient été assignés à résidence dans leur hôtel de Maïdigouri, la capitale de l'état du Borno. Ils ont pu regagner Abuja. Au Burkina Faso, toujours pas de trace de l'agent de sécurité roumain enlevé samedi à Tambao, une mine du nord du pays. Selon la AFP, les autorités burkinabées envisageraient de poursuivre les ravisseurs dans les pays frontaliers voisins, à savoir le Mali et le Niger. Dans un communiqué, le ministère roumain des Affaires étrangères affirme que l'otage n'aurait pas été blessé au cours de la fusillade qui a précédé son enlèvement. Le rap de samedi est une première au Burkina Faso, pays jusqu'alors épargné par les enlèvements d'occidentaux, contrairement au Mali et au Niger voisins. Au Mali, toujours la même psychose d'insécurité croissante dans le pays. Une femme a été tuée et deux civils blessé à Gao dans le nord, quand au moins trois roquettes ont été tirées sur cette ville. Attaque qui a fait suite à une explosion en périphérie de Bamako vendredi, dont le bilan avait été d'un mort et quatre blessés. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Cette attaque vient s'ajouter à une longue liste. Comme nous l'explique Modibo Sidibé, président des partis phares, lors de leur conférence sur le défi sécuritaire au Mali.
La question, combien crucial du nord du Mali, terrorisme, économie criminelle, groupes armés, absence de l'État, domine la question sécuritaire qui pourtant ne se réduit pas à elle. La récurrence des insécurités urbaines et interurbaines sur l'ensemble du territoire, les vols de bétail et autres en milieu rural sont source d'inquiétude pour les populations, car elles réduisent leur mobilité et pèsent sur l'économie locale. Les récents actes terroristes à Gao, ici à Bamako, ont fini de convaincre définitivement les Maliens de la dimension djihadiste régionale de l'insécurité qui frappe ici comme ailleurs.
Plusieurs personnalités politiques de la société civile ont participé à ces débats, comme Sidi El Meidi Baka de Kidal.
Aujourd'hui, je pense que les Maliens ont compris que le terrorisme, c'est pas seulement clair, mais il devient aussi noir. Donc, faisons énormément attention. Pas d'amalgame et surtout pas d'injustice. Donc, le problème du Mali, c'est pas un problème du Nord, c'est pas un problème du Sud, c'est un problème du Nord et du Sud.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un Néerlandais détenu au Mali par le groupe islamiste ACMI a été libéré aujourd'hui par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du pays. C'est ce qu'annonce le ministère français de la Défense. L'otage néerlandais Sjaak Rijke est maintenant libre. Cette action de combat a permis la capture de plusieurs individus, précise le ministère de la Défense dans un communiqué. Afrique centrale maintenant, République démocratique du Congo, une première dans l'histoire de la RDC, la décision de l'Assemblée nationale de créer un organe intitulé Commission nationale pour les droits de l'homme, ayant pour mission de gérer les cas de violation de ces droits. Mais cette initiative ne fait pas l'unanimité et les mouvements associatifs comptent suivre de près les activités de la Commission. On écoute le président de l'ASADO, l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, au micro de Eli Essango.
Pour la plupart, ce sont des personnes qui ne sont pas très bien connues des mouvements associatifs en République démocratique du Congo. Et pour la plupart aussi, nous savons que ce sont des personnes qui sont pro-gouvernement, en sorte que la question de leur indépendance est remise en cause dans la mesure où, pour nous, cette commission, s'il ne suit pas d'une certaine indépendance vis-à-vis du gouvernement, parce que vous savez que dans la plupart des cas, les violations des droits de l'homme sont commises par les agents du gouvernement.
Qu'est-ce que vous allez faire exactement?
Nous allons nous approcher à l'acte qui leur donne un certain nombre de missions à accomplir et nous allons chaque fois faire le monitoring pour voir si ces missions sont accomplies dans l'intérêt de la population ou tout simplement dans le sens de protéger le gouvernement et de ne pas le mettre en cause.
Vous y voyez une manœuvre du gouvernement pour cacher les violations des droits de l'homme, bien sûr?
Oui, bien sûr. Si la commission n'est pas indépendante, elle va commencer à faire des rapports qui ne vont pas être conformes à la réalité. Mais ce qui est bien, c'est que pour nous, la présence de la commission ne nous interdit pas ou ne nous empêchera pas de continuer à faire notre monitoring régulier des cas de violation des droits de l'homme et de pouvoir les publier. C'est dans cette mesure-là que la commission se verra sous pression pour la contraindre, soit à faire le travail comme il se doit, soit à disparaître, parce que si la population à un moment donné ne sait plus lui faire confiance, elle n'aura plus de rôle à jouer et ça sera fini pour elle.
Depuis janvier, une trentaine de Congolais, jeunes défenseurs ou militants pour démocratie ont été arrêtés. Est-ce que vous allez présenter ces cas à cette commission?
Nous avons adressé un mémo à Madame la présidente de la commission de l'Union africaine pour demander son intervention pour que nos collègues qui sont encore en détention aujourd'hui soient libérés.
Le gouvernement rwandais en négociation avec Israël pour un éventuel transfert de clandestins africains actuellement dans l'État hébreu vers le Rwanda. Des précisions avec Eddie Isango.
La confirmation de cet accord en préparation a été faite par les deux parties. Du côté israélien, la confirmation est venue vendredi du ministre israélien de l'Intérieur, Gilad Erdan. Le président rwandais Paul Kagame avait pour sa part reconnu dès jeudi, au cours d'une conférence de presse, qu'un accord était effectivement en préparation entre Israël et le Rwanda. Je sais qu'il y a des discussions et il y a eu un débat en Israël au sujet des migrants africains venus en Israël, comme ils le font dans les pays européens. Certains d'entre eux sont en situation irrégulière ou ont un statut différent. Le problème est qu'Israël voudrait les renvoyer dans les pays dont ils sont venus et certains disent qu'il y a un danger dépendant de la manière dont ils ont quitté leur pays. Israël suggère plutôt de les renvoyer dans un autre pays comme alternative, a dit M. Kagame. Le président rwandais ne l'a pas dit, mais l'accord rapporterait à Kigali plusieurs millions de dollars selon les médias israéliens. Israël voudrait se débarrasser du flux des migrants et des démons.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eddie Sango sur qui nous terminons cette actualité. Merci à lui et merci.
Israël a l'air chercher une...
Merci à Eddie Sango. Merci, c'est la fin de ce journal. Nous nous retrouvons dans pratiquement une heure pour un nouveau journal. Vous êtes sur VOA Afrique. L'actualité en continu sur notre station. Restez avec nous tout le long de cette journée. Jean-Roger Billon à ce microphone. Merci encore de nous avoir suivis.
au cœur de